Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
ADA Audio vous présente Petit Bouddha, guide pour apprendre à s'aimer, de Laurie Deschênes, à la narration Daniel Panton. Au sujet de Petit Bouddha et de cet enregistrement. Nous ne sommes pas seuls, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Tel est le message central de tinybuddha.com, un blog communautaire sur lequel vous trouverez des témoignages et des leçons envoyées par des gens de tous âges et de partout dans le monde. C'est un lieu où nous pouvons nous rassembler pour partager nos difficultés et nos succès, sachant que même si les circonstances de nos vies sont uniques, nous ne sommes pas si différents les uns des autres. Peu importe ce que nous faisons, ce que nous croyons, d'où nous venons ou là où nous voulons aller, nous souhaitons tous être heureux. Nous voulons tous surmonter nos douleurs et nous possédons tous un potentiel infini si seulement nous sommes prêts à le croire. Ce qui m'a amené à cet enregistrement. J'ai souvent dit que je suis pratiquement sortie du ventre de ma mère en criant « Regardez-moi !» avant de m'exclamer tout de suite après « Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ?» Durant presque toute ma vie, j'ai désespérément senti le besoin que les autres m'accordent toute leur attention, tout en craignant ce qu'ils verraient en moi. Il s'agissait d'un besoin profond et dévorant d'approbation, ponctué par la peur de ne pas être à la hauteur de celle-ci. Je me sentais ridicule, inférieure, perdue, seule et complètement impuissante. Sur le long et tortueux chemin vers un état d'esprit moins cruel, j'ai appris que nous sommes nombreux à chercher désespérément l'amour et le bonheur, même si nous ne croyons pas vraiment mériter l'un et l'autre. Pis encore, nous ignorons complètement comment nous en faire cadeau. Nous avons tellement l'habitude de nous punir chaque fois que nous faisons une erreur, de nous blâmer quand nous échouons et de douter de ce que nous sommes capables de faire, que nous en venons à croire qu'il nous faut une voix intérieure plus punitive. Si seulement elle nous poussait assez fort, peut-être serions-nous meilleurs et peut-être nous sentirions-nous mieux. Peut-être pourrions-nous surmonter notre tendance à l'autocritique et, finalement, nous accepter et profiter de la vie. Mais les choses ne fonctionnent pas comme cela. Ce n'est pas en nous détestant que nous parviendrons à nous aimer. Avant d'aimer ce que nous sommes, nous devons choisir d'être bons envers nous-mêmes, tels que nous sommes. Vous avez peut-être appris à faire exactement le contraire durant votre enfance et par la suite. Par conséquent, vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à essayer de vous améliorer, de gagner l'approbation de tous ceux qui vous entourent et d'échapper à la honte de vos pires décisions. Avec le recul, je vois que j'ai vécu les premières années de ma vie embourbée dans un profond sentiment de dégoût envers moi-même. Je pensais que je me sentais vide et seule parce que le monde entier était contre moi. Je possédais de nombreuses preuves démontrant que le monde est un lieu dur et insensible, que les gens me feraient du mal si je baissais la garde. Mais j'ai souffert davantage en agissant ainsi, car l'espace dans lequel je me suis isolée était beaucoup plus cruel et toxique. La méchanceté des autres n'était rien comparée à la mienne. L'opinion des autres n'était jamais aussi catégorique que la mienne. Et rien d'inconnu ne pouvait être aussi douloureux que la familiarité des souffrances que je m'infligeais à moi-même. J'avais 21 ans, la première fois qu'un thérapeute m'a demandé de dessiner un portrait de moi-même. Je notais depuis 10 ans mes émotions dans des journaux intimes, même s'il m'arrivait rarement d'éprouver quelque chose de façon durable. Je possédais une grande collection de ces journaux usés et défraîchis dans lesquels je déchargeais ma colère contre tous ceux qui me faisaient du mal, et, en retour, j'enregistrais quotidiennement les différentes façons dont je me faisais souffrir moi-même. Ce qui n'était à l'adolescence qu'une façon d'échapper à la cruauté du monde s'est finalement transformé en journal de bord de mes expériences de torture sur moi-même. 500 est le nombre de calories qui me semblait raisonnable d'ingérer chaque jour si je voulais maîtriser mon poids, l'une des seules choses que je pouvais maîtriser. 13 est le plus grand nombre de fois que j'ai vomi durant une journée pour me débarrasser de ce que j'avais mangé en trop. 30 est le nombre minimum de fois que je me pesais chaque jour pour veiller à ce que mon poids ne dépasse pas 45 kilos. 10 est le nombre approximatif de fois où je me suis évanouie sur le campus de l'université, causant des inquiétudes à mes pairs et mes profs au sujet de ma santé. 6 est le nombre de fois où je me suis retrouvée à l'urgence, déshydratée, avec des douleurs dans la poitrine, craignant qu'il s'agisse d'une crise cardiaque. 7 est le nombre de fois où j'ai été expulsée d'un hôpital parce que des médecins découragés ne savaient plus quoi faire de moi. 3 est le nombre de mois que j'ai passé dans un centre de traitement du Wisconsin où, durant une séance d'art-thérapie, on m'a donné un crayon et demandé de me dessiner tel que je me voyais. J'ai commencé par dessiner un cercle dont le sommet était plissé, comme si on l'avait attaché avec une corde. À l'intérieur, j'ai dessiné de la matière grise, une substance incolore et presque liquide. C'était un dessin rudimentaire avec très peu de détails. J'ai pensé que les autres ne devineraient probablement pas ce que c'était. J'avais pourtant l'impression que c'était une représentation fidèle de moi-même. Après tout, je ne savais pas moi non plus de quoi j'étais faite. Mais tout le monde dans la classe a compris que je me voyais comme le contenu de ce sac. C'était, en fait, la représentation visuelle du souvenir qui me faisait le plus honte à l'époque. À 12 ans, je me sentais laide et inférieure. Ce n'était pas simplement le fait que j'étais plus dodue, moins populaire et moins douée que ma sœur aînée, qui attirait les garçons comme jamais je n'avais pu le faire. Ce n'était pas le fait que plusieurs de mes camarades semblaient partager l'idée que je ne valais pas grand-chose. C'était le fait que je me croyais indigne d'amour. Néanmoins, j'ai toujours cherché à être aimée, et je pensais que la meilleure façon d'y parvenir était de faire semblant que je souffrais d'un trouble de l'alimentation. J'avais vu une émission éducative au sujet de deux filles, l'une anorexique, l'autre boulimique, auxquelles tout le monde semblait prêter attention. Le fait que la jeune fille boulimique finissait par mourir n'avait pas retenu mon attention, car ce n'était pas quelque chose qui m'effrayait, puisque j'étais convaincue que ma vie n'avait aucune valeur. Je voulais simplement que les gens me remarquent. Je voulais faire quelque chose de si dangereux et de si terrifiant que les gens seraient obligés de se concentrer uniquement sur moi. C'était un désir égoïste et stupide, mais je me rappelle avoir pensé, la première fois que je me suis fait vomir, que je ne faisais que jouer la comédie. Je n'étais pas vraiment boulimique. Je jouais tout simplement ce rôle de façon très convaincante pour attirer l'attention. Je voulais donner l'impression d'être désespérée. Et finalement, je le suis devenue. À l'université, toute ma vie tournait autour de mon rituel secret. Cela commençait par un sentiment quelconque, sentiment de culpabilité, de colère, de regret, mais surtout de honte. Il pouvait même s'agir à l'occasion d'un moment de bonheur, puisque je craignais de ne pas en être digne ou de ne pas pouvoir m'y accrocher. Puis, je me mettais à manger, à m'empiffrer sans raison, sans y prendre le moindre plaisir ou en retirer la moindre satisfaction. Je tentais, en déglutissant de façon frénétique, voire violente, de m'anesthésier. Et pendant un instant, je ne ressentais plus aucune douleur. Je ne pensais plus à rien, si ce n'est à trouver de la nourriture et à la consommer le plus rapidement possible, sans que personne ne s'en rende compte. J'étais là, mais en partie seulement. J'étais là physiquement, mais non mentalement. C'était la première étape d'un processus que je devais compléter, et cela me rendait extrêmement anxieuse, car j'avais peur de ne pas pouvoir me débarrasser de toute cette nourriture qui m'avait permis de combler temporairement ce vide. J'ai tenté de cacher mon rituel d'ingestion et de vomissement pendant des années, et pendant des années, des gens ont tenté de m'aider. Puis j'ai compris que je n'arriverais peut-être pas à tenir jusqu'au bout. J'ai compris que je ne serais peut-être jamais capable de reprendre la maîtrise de moi-même et d'éprouver ce sentiment de libération qui était devenu pour moi une véritable drogue. Mes yeux injectés de sang, mes jointures ensanglantées, mes dents en piteux état, ces symptômes trahissaient le fait que je continuais à m'y adonner. Mais j'avais trouvé des façons imaginatives de les cacher, comme celles que je devais mettre en œuvre lors de ma dernière hospitalisation. Comme j'avais été expulsée du seul centre pour les troubles de l'alimentation du Massachusetts, je suis passée par plusieurs départements de psychiatrie, mais personne ne semblait capable de me traiter efficacement. Personne, parmi les membres du personnel, ne semblait posséder les connaissances ou l'expertise pour me fournir l'aide dont j'avais besoin. Mais, en réalité, je ne voulais pas recevoir leur aide, ni celle de ma famille. Lors de mon dernier séjour à l'hôpital, on me laissait prendre mes repas sans supervision, puis on m'enfermait dans ma chambre. J'avais libre accès à une cuisine pleine à craquer le matin, le midi et le soir. Puis, un membre du personnel m'escortait jusqu'à la cruelle solitude de ma chambre, où j'avais inévitablement l'impression de perdre la tête. Puis un jour, j'ai eu l'impression de suffoquer. J'avais passé 30 minutes assise, pieds nus et vêtue d'un survêtement, dans la cuisine avec d'autres patientes. Étant donné que ma voisine avait essayé de se pendre avec un lacet, aucune d'entre nous n'était autorisée à garder leurs chaussures. Je pouvais l'entendre crier à l'autre bout du couloir, mais ce n'était rien comparé au bruit dans ma tête. Je n'arrivais pas à croire que ma vie ait pris un tel tournant. Je n'arrivais pas à croire que j'étais là, au lieu de me préparer à recevoir mon diplôme universitaire. Pis encore, je n'arrivais pas à croire que j'allais bientôt être enfermée dans ma chambre, où je ne pourrais plus me débarrasser de tous ces aliments toxiques à l'intérieur de moi. J'ai paniqué. J'ai décidé que je devais le faire coûte que coûte. Chaque seconde qui s'écoulait me rapprochait du moment de la digestion, du moment où j'allais perdre le contrôle. Je devais avoir l'estomac vide à nouveau. Si j'acceptais de me sentir impuissante, toutes les souffrances que j'avais éprouvées par le passé me submergeraient comme un raz-de-marée. Ce sac que j'avais dessiné en art-thérapie, c'était l'oreiller évidé qu'une jeune fille avait sorti en douce de ma chambre après que je me sois purgée dedans. J'ai frappé sur la porte verrouillée et expliqué à un conseiller en santé mentale qui se trouvait là que mon ami devait me ramener ma lessive. Mais j'ai compris que mon oreiller n'avait pas pris le chemin des ordures quand l'un des conseillers m'a invité à m'asseoir dans son bureau. Il m'a dit que je devrais avoir honte et qu'il était temps pour moi de partir. Tandis que ces paroles résonnaient dans ma tête, je me suis dit que le moment était peut-être venu de lancer la serviette. Je méritais de me sentir honteuse. J'avais fait des choses horribles et répréhensibles. J'étais égoïste et faible. C'était la croyance que j'essayais d'oublier depuis 10 ans. L'idée que c'était de ma faute si on m'avait brutalisée, intimidée et admonestée. Et pourtant, quelque part à l'intérieur de moi, je continuais d'espérer que je valais beaucoup mieux que les pires choses que j'avais faites. C'est cette partie de moi-même qui a trouvé le centre d'hébergement et qui a supplié son directeur de bien vouloir m'accepter. J'ai quitté le Wisconsin au bout de 3 mois de traitement intensif sans être complètement guérie, mais j'avais éliminé ou considérablement réduit les comportements qui mettaient ma vie en danger. J'avais commencé à remonter des profondeurs de mon dégoût de moi-même. Mais, en réalité, j'avais encore beaucoup de chemin à faire. Je n'étais plus en train de mourir à petit feu, mais j'ignorais encore ce que signifiait vivre réellement. Je savais seulement que je voulais m'éloigner le plus possible de tout ce qui me rappelait ce que j'avais été. Alors, je suis partie m'installer le plus loin possible sans quitter le pays, de la côte est vers la côte ouest. Après 10 ans de thérapie et de médication, je vivais à présent dans un monde où il n'y avait plus rien de tout cela. Cette étape a marqué le début d'un nouveau type de guérison qui m'a amené aux 4 coins des États-Unis, tandis que je me déplaçais pour trouver du travail, tout en essayant de découvrir qui je pouvais être. Quand j'y repense, je me rends compte que mon périple n'a pas été linéaire, que chaque journée n'a pas été forcément meilleure que la précédente. Il m'est souvent arrivé de faire 2 pas en avant, puis 1 pas en arrière. J'ai traversé plusieurs périodes de confusion, de désespoir et de doute. J'ai également trouvé en moi-même des raisons d'être impressionnée, inspirée et heureuse, comme cela m'arrivait rarement quand ma vie tournait autour de ma maladie. Finalement, il y a 6 ans, je suis retournée au Wisconsin pour partager mon expérience avec de nouvelles résidentes. Debout devant tout le monde, les yeux clairs, les mains sans marque, le teint frais plutôt que cireux, j'ai partagé quelques-uns des nombreux comportements autodestructeurs auxquels je m'adonnais en secret. Puis, j'ai raconté ce qu'un conseiller m'avait dit un jour où j'étais tombée plus bas que terre. « Tu devrais avoir honte. » Je leur ai dit qu'il avait tort. Oui, j'avais commis une grave erreur. Oui, j'avais fait des choses égoïstes et dangereuses. Oui, je pouvais assumer la responsabilité de mes actes au lieu de m'enfermer dans une mentalité de victime. Mais si je voulais m'en sortir, je pouvais affronter cette voix à l'intérieur de moi qui me disait que je devrais avoir honte. Je pouvais me voir davantage comme une lumière que j'obstruais depuis des années et moins comme les ténèbres qui menaçaient de l'étouffer. Je pouvais parler de mes forces au lieu de m'attarder à l'histoire de mes faiblesses passées. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus jamais raconté cette histoire, jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais plus bâtir mon identité autour de mon trouble de l'alimentation. Je ne voulais pas me laisser définir par celui-ci. Mais je comprends à présent que cela n'a pas d'importance si vous décidez de me définir en fonction de la pire chose que j'ai commise par le passé. Ce qui compte, c'est comment je me définis à travers les gestes que je pose à présent. Comme je l'ai appris, c'est ce qui est à la source même de l'amour de soi. Savoir que nous valons beaucoup mieux que nos pires erreurs, que nos moments de faiblesse ou que nos décisions les plus honteuses. Et prendre conscience que nous pouvons être ce que nous voulons dès maintenant, et pas seulement malgré ce que nous avons été, mais aussi à cause de ce que nous avons été. Je partage aujourd'hui ces détails de ma propre aventure en sachant parfaitement que vous, auditeurs, ne vous êtes peut-être jamais détesté de façon aussi intense. Vous n'avez peut-être jamais frôlé la mort, souhaité mourir, ou pensé que vos proches seraient plus heureux sans vous. Mais cela fait partie de ma vérité. Même s'il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en rendre compte, la cause de toutes mes souffrances dans la vie était mon propre sentiment d'indignité, et non les relations qui n'avaient pas fonctionné ou les nombreux emplois insatisfaisants que j'avais occupés. Rien ne me procurait un bonheur suffisant, car je croyais ne pas suffisamment le mériter. Peut-être serons-nous d'accord là-dessus. Il y a quelque chose que nous avons pour la plupart en commun. Nous ne croyons pas vraiment être aussi beaux et dignes d'amour que nous le sommes en réalité. Tout comme nous cherchons parfois des raisons de ne pas faire confiance aux autres, nous cherchons des preuves qui confirment la perception déformée que nous avons de nous-mêmes. Et nous perpétuons ainsi dans notre esprit un cycle de pensées négatives par rapport à ce que nous sommes, aux erreurs que nous pensons avoir commises et à ce que nous souhaiterions changer sans, pensons-nous, en être capables. Tout ce qui se produit à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. La bonne nouvelle est que nous possédons tous le pouvoir de changer l'un en commençant par changer l'autre. C'est cette prise de conscience, entre autres choses, qui m'a poussé à mettre sur pied le site tinibuddha.com en 2009, un espace où nous pouvons tous apprendre à panser nos blessures afin non seulement de survivre, mais de nous épanouir. Nous avons tous un incroyable potentiel pour vivre une vie utile, passionnante et heureuse, mais nous devons d'abord croire que nous le méritons. Et vous le méritez. Même si vous avez fait des choix par le passé que vous ne referiez plus aujourd'hui, compte tenu de ce que vous savez, vous ne méritez pas de vous sentir inadapté, honteux, sans valeur ou inférieur à qui que ce soit. Vous n'avez pas à vous culpabiliser à cause du passé ou à penser que vous ne serez jamais à la hauteur. Peu importe d'où vous venez, vous méritez la chance de poursuivre votre chemin sans avoir tout ce poids sur la conscience. Cela signifie non seulement être bon envers vous-même, mais aussi faire preuve de patience quand vous avez du mal à l'être. J'ai appris que nous n'arrêterons peut-être jamais complètement de douter de soi et de nous critiquer. Mais il est possible de le faire beaucoup moins souvent et d'y accorder moins d'importance. C'est la grande beauté de cette aventure progressive et imparfaite. Modifier quelque peu notre façon de penser peut créer de grands changements dans notre vie. J'espère que cet enregistrement vous aidera à être moins dur envers vous-même et un peu plus présent et joyeux dans la vie. Une pensée et un moment à la fois.